du Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Coq à l'âne podcast, c'est le numéro 761, j'ai le plaisir d'accueillir la crème des coqualiens, en personne de Patrick Faure.
Excuse-moi, je me suis retourné pour voir. Bonjour à tous.
Et Pierre-Louis Rouni.
Le chou des coqualiens.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et notre invité qui fait également partie de la crème, bon, la crème des politiques au Alpin, c'est Kevin Parra qui est avec nous. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien. Merci de me recevoir.
Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. On va parler des LR au niveau national. Oui, parce que tu es toujours président des LR des Hautes-Alpes, on est bien d'accord?
Oui.
Voilà. Donc on va parler un petit peu des LR parce que bon, on est tous un peu au courant qu'à la mi-mai, eh ben, on va avoir un vrai président parce que là, pour l'instant, on a un vice-président exécutif en la personne de François-Xavier Bellamy depuis le départ, bien sûr, d'Éric Ciotti à la concurrence.
Qui s'est barré avec les meubles.
D'un autre côté, ça n'a pas dû être un crève-cœur de voir partir Éric Ciotti des LR, non?
Ça a été compliqué.
C'est pas mal.
Non, sérieusement,
ça débute bien. Tiens.
Est-ce que tu avais des atomes crochus avec Éric Ciotti ou pas?
Ouais, tu commences direct dans le vif du sujet.
Hein. Bah oui, évidemment, on est là pour ça.
Non, écoute, honnêtement, pour répondre très franchement, il a surpris tout le monde. Tout le monde, y compris des gens de son propre cabinet, puisque on est un peu au courant quand même.
Bah donc, oui, j'imagine.
Après, malheureusement, ça fait partie, encore une fois, de ces stratégies politico-politiciennes dont les gens n'ont plus du tout envie, quoi.
Ouais.
C'est vrai qu'important, il a tiré la chasse au cabinet.
C'est très bon, ça, c'est très bon. Grande forme, Patounet, aujourd'hui.
Merci.
L'élection du futur président, ce sera donc pour la mi-mai, hein, avec les deux nouveaux champions du parti, on peut en parler comme ça, hein. Bruno Retailleau d'un côté, ministre de l'Intérieur, et puis évidemment Laurent Wauquiez de l'autre, le président de la région Aura. Alors, bah, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on s'achemine une nouvelle fois vers une nouvelle guerre des chefs au sein des LR?
Non, très honnêtement, je ne crois pas. Je pense que c'est normal, on en fait toute une affiche, parce que ça fait des grands titres, et puis on aime bien ça, c'est le petit côté politique que les Français, malgré le fait qu'ils le méprisent, l'aiment bien et le regardent et l'écoutent. Je pense pas, je pense que dans un parti, il faut qu'il y ait de la démocratie. À l'inverse, je pense que c'est une bonne chose, finalement, qu'il y ait deux candidats plutôt qu'un, qui était prédestiné à, au contraire, en la personne de Bruno Retailleau, qui est quand même quelqu'un de qualité, au-delà... des opinions politiques, je parle, c'est quand même quelqu'un d'expérience qui a géré des municipalités, des communes, des intercommunalités, conseil départemental, qui a une expérience aussi de conciliation au niveau du Sénat. Voilà, quand il parle, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, je pense que c'est une des personnes qui fait de la politique un petit peu de manière, avec un peu plus de prise de recul. Il dit pas n'importe quoi et ça va faire du bien ce débat. Parce que Laurent Wauquiez, de l'autre côté, même si je sais qu'au niveau des médias et au niveau de l'ensemble de l'opinion publique, il passe peut-être pas
trop bien. C'est plus sulfureux un côté Wauquiez. Hein.
C'est vrai, mais sur les compétences, et on va essayer de parler de ça quand même, sur les compétences, il a été lui aussi à la tête de la région Aura, qui est une région voisine à la nôtre, et sur laquelle il y a eu un certain nombre de choses de faites, des résultats. Et donc je pense que cette confrontation au sein du parti va être saine, en tout cas c'est ce que je souhaite bien sûr, j'espère que ça ne sera pas un pugilat bien évidemment, et ça permettra peut-être de mettre en avant un certain nombre d'idées, peut-être une feuille de route, puisque les élections présidentielles ne sont pas si loin, et commencer à débattre des vrais sujets, avec de proposer des vraies solutions. Donc moi je trouve à titre personnel que cette confrontation, ce duel, cette compétition saine, elle sera bonne pour la droite et le centre-droit.
Pierre-Louis, tu as un avis sur les deux? Tu as une préférence?
Alors déjà, je suis content qu'il y en ait deux aussi, pour les mêmes raisons que toi. Et puis parce que, plus que les sujets et les solutions, LR pour moi manque d'un problème de positionnement. Tu vois? Enfin, vous voyez, pardon.
Oui, on te suit, on te suit.
Vous intéresse que je dis aussi. Non, c'est vrai parce que l'histoire Ciotti... Au-delà du personnage Ciotti, elle est liée au fait que le positionnement de LR parfois est...
Tu veux dire LR qu'il n'était pas clair, quoi.
C'est-à-dire qu'ils sont un peu sur un fil. Avec toute la place qu'a pris, hein, là aussi j'essaie de prendre les bonnes conjugaisons, les bons temps, qu'a pris En Marche au centre, Et la place qu'a pris l'extrême droite à droite, c'est vrai que les LR, ils étaient un petit peu écrasés. Et c'est la période ou jamais de jouer un peu des coudes. Et si t'as qu'un Laurent Wauquiez, bon, tu vas jouer peut-être des coudes d'un côté ou de l'autre, peu importe, parce que j'ai, en plus, j'ai, pourtant, lui, il y est depuis longtemps, j'ai toujours pas très bien compris où il se situait. Voilà. Rotaillot, c'est beaucoup plus simple. Et comme je pense que, de mon point de vue, avec ce que je pense moi, qui suis quand même apolitique, mais quand même qui est un libéral convaincu, et qui a envie aussi, à sa manière, de faire une barrière à l'extrême droite, je pense que le positionnement, pour moi, il faut qu'il soit quand même ancré à droite. Voilà. Il faut qu'on montre aux Français qu'il y a une droite républicaine qui existe, démocrate, et qui n'a pas peur de dire des choses qu'on avait peur... Peut-être, enfin, qu'on avait peur il y a quelques mois ou il y a quelques années de dire, mais qu'on n'avait pas peur de dire, même quand on a été à gauche il y a 20 ans. Et tout ça, enfin, quand on a mon âge, je me dis, mais où est-ce qu'on en est, quoi? Ça fait peur, tout ça. Et voilà, pour moi, Bruno Retailleau, il est clair. Alors, c'est de la politique, hein, entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire ou ce qu'il fait, il y a certainement un champ, mais c'est pas grave. Voilà,
mais pour aller dans ton sens, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ressort sur les enquêtes d'opinion à l'heure actuelle. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, vous vérifierez, mais à plus de 65%, si ce n'est pas 68%, d'opinion favorable aux yeux de l'ensemble des Français. Pourquoi ? Parce qu'il a la tribune, à mon avis, adéquate et adaptée pour pouvoir justement faire ce dont tu parles et parler de manière claire et agir, ou en tout cas essayer de mettre en place un certain nombre de propositions sans avoir peur de dire les choses. Et en sa personne, pour quelqu'un qui a quand même une certaine expérience, je trouve qu'il le fait de manière... posé. Il n'y a pas de... Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire de la politique quand même de manière un petit peu plus posée, voire reposée, de se respecter, de s'écouter. Quand on voit le spectacle qui est donné au niveau de l'Assemblée nationale certaines fois, franchement, il ne faut pas s'étonner que les Français soient dégoûtés de la politique. Or là, je trouve vraiment qu'il y a de la qualité pour pouvoir faire, pour pouvoir dire et pour pouvoir faire. Et donc je pense, je suis d'accord avec toi, que je pense que cette élection va être plutôt bénéfique pour la droite.
L'avantage de Bruno Retailleau par rapport donc à son concurrent Laurent Wauquiez, c'est que lui, il est quand même très exposé, dans le sens où lorsque tu es ministre de l'Intérieur, surtout dans cette période-là, tu es souvent sur les devants de la scène, beaucoup plus que Laurent Wauquiez. Donc si ça se passe bien pour lui en tant que ministre, je pense que ce sera certainement un boulevard, je ne sais pas ce que vous en pensez, un boulevard pour son élection au sein des LR.
Je pense que... Au-delà de tout ça, il a quand même réfléchi et mûri finement sa décision de partir dans cette compétition. Il a aussi consulté l'ensemble des potentiels candidats de la droite et du centre-droit. J'élargis vraiment le spectre et je fais exprès jusqu'à notre ancien Premier ministre Philippe. Pourquoi ? Parce qu'il leur a promis qu'il y aurait lieu, certainement, je pense, en tout cas j'en suis convaincu, une primaire. Voilà. Et je pense que dans ce cadre-là, il leur a dit, voilà, bien évidemment, je récupère le parti pour qu'on ait une meilleure visibilité, pour qu'on puisse avancer un certain nombre d'idées, mais ne vous inquiétez pas, le jour J, les adhérents élargis, alors ça reste à confirmer, parce que pour l'instant, pour avoir posé la question moi-même, personne n'a répondu de manière précise sur est-ce qu'il y aura une primaire et de quelle primaire s'agira-t-il, sera-t-elle ouverte ou pas, mais en tout cas,
faut pas. Moi, ça me dire... Il faut pas faire de primaire. Enfin, moi, je trouve qu'on n'est pas, pas fait pour ça.
J'ai toujours été d'accord avec ce que tu dis, et puis en y réfléchissant un petit peu, écoute, pourquoi pas. François Fillon n'avait pas eu ses affaires, alors avec des sillons, hein, on refait l'histoire, mais s'il n'avait pas eu ses affaires, il serait certainement président de la République. Bon, pourquoi la primaire, c'était... elle s'est pas bien passée pour moi, parce que j'étais sarkozyste. Hein.
Donc, tu vois, je
le dis avec d'autant plus de... Mais... une primaire ouverte, fermée, ça se discute. Si ça permet de mettre tout le monde autour de la table et d'éviter une cohue, pourquoi pas.
Ta dernière participation à une élection remonte à 2022, les législatives, un moment où d'ailleurs les LR étaient au plus bas, hein, après la débâcle de Valou.
5.
Hein, Valérie Pécresse au présidentiel. Mais bon, la roue a quand même vachement tourné. Les LR se sont quand même, mine de rien, refait une santé, déjà en plaçant un de leurs membres à la tête de Matignon, et ça, franchement, c'était pas gagné, hein, Michel Barnier. Donc ça, c'était la vraie surprise du chef, même s'il détient dorénavant le record du Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Mais quand même, au vu des résultats des législatives l'an passé, c'était quand même assez inespéré de décrocher le Graal. Un petit mot sur Michel Barnier, qui est quelqu'un qui est un homme de qualité, enfin moi je trouve. Qu'est-ce qui lui a manqué pour garder le poste?
Le souci, là... les circonstances. Mais absolument. Ouais. C'était une question de circonstances. C'est dommage, parce qu'on ne lui a même pas laissé le temps de pouvoir avancer ses pions et de proposer des choses, et surtout d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses. Mais je pense vraiment que c'est une question de circonstances qui fait que la politique aujourd'hui, c'est difficile de la suivre. Vous auriez mis quelqu'un d'autre, il aurait fait...
Ça aurait été à peu près la même chose.
À une semaine ou d'autres décalages, ça aurait été exactement la même chose.
Pour moi, c'était un éclaireur. Il fallait un premier qui se fasse déglinguer parce que...
C'est infusible. Voilà, ouais, Patrick, tu voulais dire un truc?
Oui, le contexte, tout simplement. Tu te retrouves avec un Premier ministre qui, devant des Français dont le seul souci, c'est l'âge de la retraite, ouais. Alors que derrière, il se joue des choses encore plus fortes au niveau mondial. Et tu en es à tirer des bouts de ficelle pour faire des économies d'un côté, de l'autre, essayer de faire plaisir à un certain électorat, entre parenthèses, pour éviter de se faire déglinguer.
Sans se faire d'ennemis aussi, pour éviter de se prendre dans la tête...
La censure.
Voilà.
La censure.
Et derrière, il y a des problèmes qui sont en train de surgir et qui sont plus que vrais quand tu vois le changement du positionnement de l'Amérique. Là maintenant, t'en es plus à dire, mais c'est plus 62 ans. C'est la question des retraites, c'est plus ça. Il va falloir faire des économies, il va falloir monter la participation du budget de l'armée, le PIB, à 5% pour se dire de mettre en place une armée européenne. On ne peut plus raisonner à l'échelon français, il faut qu'on raisonne à l'échelon européen, et je crois que la donne, elle est en train de toute se redistribuer, et celui qui aura le plus de bon sens en termes économiques et tout, il faut que les Français ils se disent, il y a d'autres pays qui disent on va passer de 67 ans à 70 ans, ça s'est encore dit il n'y a pas bien longtemps, il y a deux jours, je veux dire, la donne elle change à vitesse grand V, quoi. Et là il va falloir des politiques qui tiennent un discours de vérité, un peu courageux. Et si on les déglingue, je crois qu'on se déglingue nous-mêmes, quoi.
Absolument.
En tant que Français. Donc, moi, c'est ça que je crée énormément dans cette période. Je me dis, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, il faut arriver à faire une unité et un bloc avec des politiques qui disent, on est dans un contexte un peu merdique. Là, maintenant, il faut qu'on prenne des vraies décisions, et notamment au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe. Et il faut aller faire des économies. Et il va falloir réinvestir. Donc, peut-être qu'un grand emprunt européen ou français, ça va être peut-être ça, si on veut aller chercher un peu l'argent des Français, mais sans leur faire peur. Parce qu'il y en a beaucoup qui craignent pour leurs économies et ce genre de choses. Étant dans le milieu, j'entends des choses terribles, quoi. Et ils ont peur, les gens. Donc, il faut arriver à les assurer en disant, écoutez, vous les Français, vous allez aider la France et les Européens à réinvestir, mais pour notre défense, pour notre autonomie, pour notre démocratie. Parce qu'en face, il y a des furieux comme Trump, comme Poutine, comme les Chinois. Enfin, voilà.
On va en parler dans un instant. Tu voulais rajouter un truc, quelque chose ?
Non, juste par rapport, alors, même si c'était le sujet d'avant, la différence avec ton propos sur le fait qu'on attende des politiques qu'ils agissent. Moi, en ce moment, j'attends même déjà des paroles. Parce qu'avant, il faisait des promesses, il ne les tenait pas, on avait l'habitude. Pardon, je suis critique vis-à-vis des politiques, mais ça, je ne changerai jamais.
C'est vrai.
C'est comme ça. Mais maintenant, je les plains parce qu'ils n'osent même pas parler.
Absolument.
C'est un progrès ?
Non. Non, parce que, tu vois, ce dont tu rêves, ça n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, je pense que le problème, un jour, il arrivera. Et ce n'est pas qu'il arrive de plus en plus vite, c'est qu'on s'en approche de plus en plus. Et sans rien faire, forcément, c'est de plus en plus proche. Mais, et donc, c'est de plus en plus compliqué de parler. Quand je les entends tous à droite, à gauche, alors ça va un petit peu mieux depuis quelques semaines parce que la gauche s'est libérée de l'extrême gauche. En tout cas, c'est l'impression que j'en
ai. Le PS est en train de revenir dans le droit chemin.
Enfin. Ça me rassure parce qu'au moins, on n'a pas envie de tous les mettre dans le même panier.
Ben oui.
Et Dieu sait que ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Et c'est ce que malheureusement, souvent, on fait tous. Et à droite, ça a toujours été un petit peu plus clair, sauf que l'extrême droite a pris beaucoup de place parce qu'elle osait dire des choses que la droite n'osait plus dire. Et ça, c'est embêtant. Et elle n'osait plus la dire parce que toute la gauche était contre elle et elle avait l'impression que l'opinion publique était contre elle. Moi, j'attends des politiques qui se positionnent déjà par les paroles, parce que c'est comme ça que tu t'engages, que les gens te font confiance par la parole, pas forcément par les actes. On aimerait, mais c'était avant, ça n'existe plus, ça. Moi, j'aimerais quelqu'un qui me dise, quand on utilise le mot migrant, c'est pas un gros mot. C'est pas le premier de nos problèmes, mais c'est un problème. Et quand je dis c'est pas le premier de nos problèmes, c'est vrai que c'est pas le premier de nos problèmes. Le problème de, premier problème de la France, c'est le déficit. Et c'est pas de la faute que des migrants. C'est d'abord de la faute de tous les Français. Et encore, je dis de la faute des Français. Non, les Français, ils se laissent faire. On leur fait des politiques. Voilà. Il y en a qui peuvent tricher, parce que les politiques, elles sont comme elles sont. Il y en a qui ne trichent pas. Et entre ceux qui trichent et qui ne pourraient pas tricher, et ceux qui ne trichent jamais et qui n'arrêtent pas de pédaler et qui se rendent compte encore qu'on va leur demander de faire des efforts, il n'y a plus personne qui est content. Et voilà. Et moi, je pense que le premier des problèmes que l'on a, et j'attends des politiques qui soient claires là-dessus, il faudrait qu'il y en ait un qui ose dire, en fait, vous n'allez pas voter pour moi parce que ça ne va pas être facile à entendre, mais ça va être dur pour vous. Et je crois que c'est un pas mais à franchir, il faudrait qu'ils essayent, je ne sais pas lequel.
Il n'y a jamais un politique qui arrivera en disant « bon alors vous allez voter pour moi et vous allez en chier ».
Si, ça va arriver.
Ça s'est déjà produit dans l'histoire, mais j'adhère à 100% de ce que vous venez de dire, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui la politique, elle est... On dit que les politiques, le peuple mérite ses politiques et que les politiques méritent le peuple. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est parce que je suis d'accord avec toi. Pendant un certain nombre de décennies, on ne s'est pas bien occupé aussi de la population française. On est un pays où on paye de plus en plus d'impôts, où les services, et ce n'est pas la faute de ceux qui y travaillent, loin s'en faut, parce que les pauvres, ils ont supporté un certain nombre de choses qui sont très compliquées. Mais enfin, les services de santé... Ben, ça se dégrade, la sécurité, ça se dégrade, l'éducation, ça se dégrade, ça c'est des faits, hein. c'est pas une interprétation. C'est sûr. Or aujourd'hui, effectivement, moi je fais partie de ceux, et je suis d'accord avec toi, qui veulent que les politiques non seulement parlent, osent parler, mais ensuite agissent. Et pour ça, c'est un chemin de crête, hein. C'est très délicat, parce qu'effectivement, on ne peut pas leur promettre que des bonnes choses. Or, aujourd'hui, c'est plus facile de faire du populisme, que ça soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et de vendre de fausses idées aux Français... des idées qui d'ailleurs qui leur serviront à rien, plutôt que de dire les choses. Celui qui dit vraiment les choses aujourd'hui, ça vend pas, ça marche pas, ça accroche pas, donc du coup bah, il est vite out. C'est toute la difficulté aujourd'hui de faire de la politique. Si on mettait un maire, vous savez que le cumul des mandats, ça fait longtemps que ça n'existe plus. On est passé de tout à rien. Moi je suis contre ça, je pense qu'il faut y revenir de manière limitée. Quand vous tenez une mairie, vous pouvez pas faire un budget en déficit, ça n'existe pas. Voilà. En France, l'État, lui, il peut. Bon, avant, on avait une meilleure qualité de politique parce que plus de trois quarts de l'hémicycle, c'était des gens qui venaient, qui étaient soit maires de village, soit maires de commune, soit peu importe, mais qui avaient une expérience locale et surtout qui avaient une expérience de gestion. Voilà.
Et un vrai travail.
Et un vrai travail. Mais c'est vrai. Et qui était à portée de baffe.
Bah oui.
Aussi.
C'est ça, oui.
Il faut remettre un peu d'ordre et de bon sens dans la politique.
Alors. Parler des municipales, en fait des mairies. Revenons dans les Hautes-Alpes avec justement les municipales qui vont vite arriver, dites donc. Hein, c'est dans un an, mine de rien. Eh ouais. Alors, on est tous un petit peu impatients de voir comment ça va se passer. Alors, évidemment, à Gap, voilà.
J'ai entendu que vous vous présentiez, Thierry.
Ouais. Les forces en présence, donc le maire sortant, Roger Didier, Élie Cordier, qui a annoncé qu'il y allait, donc avec Union pour Gap. Et il y va en solo, avec quand même l'appui du PS, Marie-Jo Allemand, avec le PC, les Verts, car il n'y a pas eu d'accord avec Ambition pour Gap, parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a Union pour Gap et... Ambition pour Gap, d'accord ? Ambition pour Gap avec à sa tête Charlotte Kuentz. Notons d'ailleurs le retour sur les devants de la scène de Christophe Pirel, qui est revenu. Voilà, il nous avait un petit peu quitté depuis un certain temps. Il est de retour. Alors, Élie a expliqué que l'Union pour Gap fédère tous les partis de gauche, donc sauf LFI, qui, lui, LFI part du côté d'Ambition pour Gap, et tous les groupes d'opposition à la ville, sauf Ambition pour Gap, bien sûr. Bon. Et lui, il dit, c'est à eux de prendre une décision. Moi, je ne retournerai pas. Donc, lui, il y va. Si eux, ils veulent y aller de leur côté, ils iront. Sinon, ils pourront en venir avec lui. Alors, Ambition pour Gap, qui aura donc l'appui de LFI. Alors à ce propos, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a l'APRÉ qui a été créé il y a quelques mois. Donc c'est une association pour la République écologique et sociale. Hein, c'est l'acronyme de l'APRÉ, Association pour la République écologique et sociale. Ça a été lancé par des membres de LFI à l'époque. Hein, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain.
Super.
Et donc ils ont depuis quelques jours leur petite sœur dans le 04 et le 05. C'est l'APRÉ Alpes du Sud, définie de la même manière que sa grande sœur. Ce mouvement mouvement devrait se positionner donc en soutien logiquement à la liste Ambition pour Gap. Donc ça fait partie un petit peu de ce groupe, et c'est d'ailleurs Laurent Hérochaume qui est un petit peu le porte-parole, le fils de Jean-Claude.
Jean-Claude qui ?
Jean-Claude Hérault.
D'accord.
Vous débarquez là.
Complet.
Bon, c'est pas grave. Donc, Jean-Claude Hérault a un fils qui s'appelle Laurent Hérault. Voilà. Et donc, Laurent Hérault qui est à la tête de ce mouvement. N'oublions pas le RN, bien sûr. Il y aura un candidat certainement RN.
Divisé ou pas ?
Comment ?
Le RN divisé ou pas, je dis.
Le RN qui pourrait être aussi divisé.
En tout cas, ils se sont divisés très récemment.
Oui, bien sûr, ils se sont divisés très récemment. Mais bon, est-ce qu'on aura donc un candidat ou deux ? Alors donc peut-être RN, pourquoi pas, sur la mairie. Et puis, ça c'est les forces en présence aujourd'hui, manque plus que Kevin. Donc voilà la question qu'on pourrait se poser, c'est Kevin Parra. J'ai toujours entendu dire, d'autant plus que je me souviens bien, tu as quelqu'un de ta famille qui a fait partie du conseil municipal.
Oui, ma grand-mère.
Voilà, Monique. Mmh. Voilà. Donc tu es au courant un petit peu de comment ça se passe à la mairie de Gap. Hein. Et donc peut-être que tu aurais envie, toi aussi, d'y aller. Peut-être pas dans une liste, mais d'y aller tout seul. Ça t'est jamais venu à l'idée ?
Non, m'investir pour ma ville, oui, bien sûr, c'était plus qu'une passion. Moi, j'aime l'engagement, vous le savez, j'aime l'engagement sous toutes ses formes, d'ailleurs. Je suis un Gapensé de naissance, j'y ai grandi, j'y travaille, je suis très content d'avoir un fils qui puisse y grandir aussi. Mais je pense que quand on veut avoir l'ambition de porter un projet, il faut déjà avoir de bonnes raisons. Or, aujourd'hui, je pense que depuis un certain nombre d'années, moi, je suis très content de vivre à Gap. Je pense qu'on s'y sent bien, on y vit bien. Alors, bien sûr, il y a peut-être toujours des petites choses à corriger, mais ceci dit, je dois reconnaître que le travail qui a été effectué jusqu'à présent, c'est un travail de qualité, il faut le reconnaître. Et moi, sur l'ensemble de la politique qui a été menée jusqu'à présent, très sincèrement, j'ai rien à dire. Après, je vous cache pas qu'effectivement il y a des sollicitations diverses qui voudraient non pas balayer le passé, mais simplement essayer de porter de nouvelles idées de sorte à pouvoir continuer à ce que la ville de Gap évolue. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, très sincèrement, déjà à titre personnel, non, je suis engagé dans mon travail et j'y tiens. Ensuite, bien évidemment, si on a besoin ou si on est sollicité pour apporter un certain nombre de choses...
Tu veux dire que tu pourrais très bien rejoindre une liste ?
Non, à titre personnel, très franchement, je ne le pense pas. Mais pour les personnes qui nous suivent et ce que nous représentons, s'il y a besoin d'idées, bien sûr, on fera en sorte, et même s'il n'y en a pas besoin, on fera en sorte quand même de porter une voix au niveau du débat sur les municipales. Je pense que c'est important.
Toi, Pierre-Louis, tu es migrant maintenant, hein. Avant tu étais Gapensé, oui. Et là tu es parti.
Personne
m'a demandé de partir. Si j'avais été un OQTF, je serais encore là, puisque en fait je ne serais pas parti même si on m'avait demandé de partir.
Patrick, tu es sur Gap ou pas ?
Je suis sur Gap, oui. Donc, toi, je suis un OQTF des municipales.
Votre avis sur ces municipales qui arrivent, qui vous voyez ? Est-ce que pour vous, Roger Didier a ses chances d'être réélu une troisième ou quatrième fois ? On ne sait plus très bien.
Une cinquième, je ne sais pas. Ouais.
On en parlait avec Kevin. Ça doit être la quatrième élection, parce qu'il y a eu une première élection où il a pris la suite. Et il y a eu deux autres élections, donc ça devrait être la quatrième en toute logique, hein, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, je vois pas Roger Didier ne pas repartir.
Ouais. Oui, non, non. Ouais,
je dis le ça, j'irai, mais...
Le bon, fait qu'il reparte, c'est une chose.
Ça fait déjà une quatrième ou cinquième fois.
Est-ce que tu le vois comme aujourd'hui le favori ?
Aujourd'hui, il était entouré d'un certain nombre de personnes. Pour moi, il a une équipe vieillissante malgré tout. Il va être obligé de remettre un peu de sang neuf dans son équipe. Après, il y a un Élie Cordier qui part, qui a des prétentions, qui est certainement très sympathique, qui a l'appui de Marie-Jo Allemand, du PS. Après, il manque peut-être un peu d'expérience. Donc, sur une première comme ça, en tête de liste, je pense qu'il va s'inscrire dans le temps, Élie Cordier. Après, de la gagner, ben, ça va dépendre aussi beaucoup de ce que va faire LFI. S'il n'y a pas d'union à gauche, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, donc il va falloir gérer ça. À droite, Roger Didier, je pense qu'il a l'appui un peu de la droite, du centre. Puis Roger Didier, c'est un personnage. Donc après, de là, aller travailler avec lui, c'est encore autre chose. Parce que bon, il a un fonctionnement qui est assez... assez dur.
Assez personnel.
Je pense assez personnel. Assez personnel. Donc, voilà. En tout cas, si on vote, c'est pour Roger Didier, quoi. C'est peut-être pas pour sa liste. Donc, et sa manière de faire. Donc, après, voilà, il faut rester. Moi, je reste réaliste. Je pense que s'il part, il va repasser. Après, il peut avoir chaud aux fesses selon l'intelligence de la gauche ou pas.
Des voilà. Autres. D'accord. OK. Pierre-Louis.
Écoute, alors, je parle en sachant que ça fait 30 ans que je suis revenu à Gap et qu'en 30 ans, j'ai vécu 7 ans comme Gapensé, résident à Gapan, résident Gapensé, pardon, et le reste du temps, j'étais Nefois et maintenant Laragné. Mais comme j'ai toujours travaillé à Gap, il y a des choses en tant que chef d'entreprise qui me plaisent moins que d'autres, ça c'est vrai, mais c'est pas ce que je retiens. Je retiens que sur 90% de la politique qui est menée à Gap par le maire actuel me satisfait complètement. Voilà, et que je le trouve, là aussi, avec mon étiquette de militant patronal, combien de politiques on a pu recevoir à l'UPE 05. Et je crois que...
À l'époque où tu étais président ou non, tu parles tout maintenant?
Depuis que j'y suis, oui. Président, c'était court, c'était 4 ans.
Ça fait quelques
années que j'y suis. Donc oui, mais enfin, c'était depuis ce temps, avec tous les politiques que nous avons reçus, je crois que c'est celui qui m'a toujours le plus impressionné parce qu'il connaissait vraiment ses dossiers.
D'accord.
Et oui. Il osait dire non. C'est-à-dire que moi, je l'ai attrapé sur 2-3 trucs qui me... Enfin, notamment les transports en commun qui me touchent d'autant plus que les entreprises le financent. Et dans un métier comme le mien où on commence tôt et on commence tard, j'ai toujours considéré qu'on était un petit peu...
Non, on commence tôt et on finit tard. C'est-à-dire on commence tôt, on commence tard.
Bah, c'était un lapsus mais révélateur parce que en fait pendant la journée on travaille peu, on travaille le matin de bonne heure
et tard le soir.
Et on recommence tard le soir. Mmh. Et ce sont des horaires finalement où les transports en commun
ils n'existent pas. Hein,
voilà.
Bien sûr.
Alors en plus on nous a fait le coup de nous enlever les lumières il y a quelques temps, bon, pas qu'à Gap, hein, ça c'était un peu de partout et j'en comprenais le sens, mais je trouve que c'est beaucoup de peine pour toujours pour les mêmes et c'est assez. Ça, c'était pas très juste. Mais au-delà de ça, parce que je veux pas parler que de ça, tout le reste me convient. C'est une ville qui évolue bien. Alors après, forcément, c'est peut-être pas grâce à lui, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui, comme lui, sans être encarté officiellement, et ça me plaît dans une ville comme Gap, c'est-à-dire qu'il met pas en avant une couleur politique particulière, ça me va bien.
Et Gap.
Et voilà, et ça c'est fort, c'est très fort. Moi je trouve qu'il a toute sa place pour continuer. Maintenant, en personne sage comme il l'est, je pense que ça sera le mandat, il va probablement gagner, mais ce sera le mandat où il va penser à la transition. Et là, quelque part, je fais un clin d'œil à Élie notamment, que j'ai vu ici, qui me semble, s'il reste en tout cas pas...
trop politisé.
Voilà, je cherchais la manière de le dire de façon politique. Voilà, s'il oublie la couleur politique, il va faire partie des prétendants tout en étant jeune et donc en ayant une capacité à prendre. En tout cas, sauf si Kevin se lance un jour, mais je te sais.
Je sais pas,
plus enfin, chef d'entreprise non, non, que politique.
Je suis pas sûr.
Tu as raison, parce que
c'est vrai que le terrain, c'est important. Qu'il, oui. Oui, mais... qu'il allait faire une liste, mais bon, je pensais qu'il allait.
Kevin, il dirige pas une boîte, il dirige pas un tout petit commerce au milieu de Gap. Et son entreprise est importante.
Ah oui.
Et comme elle est importante, ça requiert quand même forcément sa présence et sa réflexion.
Oui, parce qu'être maire de Gap, après, c'est difficile de continuer ton.
C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que être maire, qui plus est, de Gap, c'est un boulot
à temps plein,
à 500%.
Voilà.
Et c'est vrai que le maire actuel, Roger Didier, on ne peut pas lui enlever ça. Il connaît sa ville par cœur. Il la sillonne tous les jours. Il se lève tôt. Vous pouvez des fois certainement le croiser vers 5h du matin parce qu'il fait le tour. Il vérifie que les rondes pour les poubelles soient bien faites. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille. On ne pourra pas lui enlever qu'il aime sa ville. D'ailleurs, vous parliez de la couleur. Il n'en a pas. C'est Gap, 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 Gap. Des fois, que Gap, trop Gap, mais c'est très bien.
Les Gap pensaient d'abord pour sa prochaine campagne.
Mais voilà, mais c'est ce qu'on demande aussi à un maire.
Ça va inspirer le RN.
C'est ce qu'on demande aussi, je pense, à un maire.